Chapitre 50. On n'y voit pas à deux pas, gronda Moram. La neige tombait à gros flocons depuis qu'ils avaient quitté l'abri du bunker 3 ou 4 heures plus tôt. Elle donnait aux ruines une uniformité blanche que brisait le vert vif des plantes grimpantes sur lesquelles elle semblait n'avoir aucune prise. Moram avait d'abord gardé un revolver à la main, puis, ses doigts s'engourdissant, il avait remisé l'arme dans la poche de son manteau et avait enfilé le deuxième gant fourré. Aura portait par-dessus sa robe de sourcière une cape de laine dont l'épaisseur ne suffisait pas à la protéger du froid. Son visage avait perdu sa belle carnation, et ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre. Les sourciers n'étaient pas équipés pour affronter les grands froids, car, en temps ordinaire, ils remplissaient les citernes à la fin de l'été et n'avaient pas besoin de partir en rabde pendant les mois d'hiver. Aura avait exprimé le souhait de se mettre le plus rapidement possible en chasse, et Moram s'était tout naturellement proposé de lui servir de garde du corps. Sur les 3 jours qui avaient suivi l'installation des aquariotes dans le bunker, Moram en avait passé 2 à dormir et l'autre à démonter le réservoir de son camion. Aura et lui n'avaient donc pas eu le temps de se voir, elle partageant de surcroît une voiture avec une dizaine de femmes veuves ou célibataires. Lui, refusant de l'inviter dans sa cabine. Il ne voulait pas associer leur première union aux odeurs intempestives d'huile, d'essence et à l'inconfort de la couchette d'un camion. Il préférait attendre que Mère Nature tisse un cocon digne de Aura, digne de ses sentiments pour elle. Les chiens tournaient inlassablement autour d'eux, s'évanouissaient parfois dans les flocons, réapparaissaient quelques instants plus tard le long d'un bâtiment éventré ou derrière une colline de ruines. C'était dorénavant une habitude. Dès qu'un homme, une femme ou un petit groupe quittait le bunker, 3 ou 4 chiens les accompagnaient. Une escorte rassurante quand il s'agissait de s'aventurer dans la ville de l'ancien temps, agaçante quand il s'agissait de s'isoler pour satisfaire un besoin naturel. Bien que l'eau fît désormais l'objet d'un rationnement drastique, personne d'autre que Moram ne s'était porté volontaire pour accompagner la sourcière. Comme dans la petite ville fortifiée, les rescapés Aquariot et Schuln ne songeaient qu'à s'aménager une vie confortable dans l'abri du bunker. Leur principale occupation consistait à fonder de nouvelles familles qui leur feraient oublier les anciennes, déchirées, dispersées, disparues. Ils exploitaient ce long répit pour recréer des nids d'intimité, pour retrouver un peu de cette chaleur humaine qui les avait fuis tout au long de leur périple. Qu'elle reflète la lâcheté ou l'inconscience, leur dérobade avait arrangé Moram dans le fond. Elle lui offrait l'opportunité d'une balade en tête-à-tête avec Aura. Toutefois, ils s'étaient sentis gagnés par la timidité dès qu'ils avaient franchi la porte du bunker. Et c'était pratiquement sans dire un mot qu'ils avaient entamé l'exploration des ruines. Aura tenait sa baguette à 2 mains à hauteur de son bassin et la gardait pointée vers le sol. Elle ne portait pas de gants pour ne pas générer d'interférence entre le bois et sa peau. Ses doigts gourds avaient lâché la fourche de coudrier à plusieurs reprises. Moram avait ramassé la baguette et tenté de lui réchauffer les mains en les glissant sous sa veste. Ils étaient restés enlacés de longues minutes sous les averses de flocons, se transformant peu à peu en statues de neige. Mais une pudeur déconcertante avait empêché leurs lèvres de se chercher. Ils suivaient à présent la rive de la Loire, dont les bourrasques dévoilaient par intermittence la surface gelée. On distinguait, entre les vestiges des anciens ponts, les formes anguleuses de carcasses de bateaux. Moram se demanda comment le peuple de l'eau réussirait à franchir le fleuve si les circonstances l'obligeaient à repartir d'urgence sur les pistes. Pas question de se lancer directement sur la glace. Elle avait beau être épaisse, rien ne garantissait qu'elle fût capable de supporter le poids des camions. La meilleure, la seule solution, consisterait à construire des barges avec des branches et des troncs d'arbres. Mais pour cela, il faudrait attendre le printemps. Il observa la jeune femme qui marchait sur la neige d'une allure de somnambule. Les aquariotes étaient, quoi qu'il arrive, condamnés à rester plusieurs mois dans ces ruines, et Aura, l'apprentie sourcière, la femme qu'il aimait, tenait au bout de sa baguette l'avenir des derniers hommes. On peut peut-être se reposer, manger un morceau, proposa-t-il. Elle acquiesça d'un mouvement de tête, trop exténuée pour parler. Des cristaux de givre criblaient les mèches indisciplinées de sa chevelure ambrée et relevée en chignon. Son cou élancé, une pure merveille, un jaillissement de grâce, émergeait du col relevé de sa cape. Sa pâleur inquiéta le chauffeur. Il fouilla les environs du regard à la recherche d'un abri. Avisa l'embrasure d'une porte basse, sur un pan de mur coincé entre un monticule de pierre envahi par les plantes grimpantes et un bosquet d'arbres foudroyé par le gel. « On sera peut-être à l'abri là-dedans. » Il la prit par le bras et l'entraîna vers la porte, dont le linteau de guingois les obligea à se courber pour en franchir le seuil. Ils pénétrèrent dans une petite pièce évoquant un vestibule. Ils entrevirent d'autres salles par une deuxième ouverture défoncée, ployée par l'effondrement du bâtiment. Une chape de béton pratiquement intacte tendait un toit hermétique au-dessus de leur tête. Moram posa sa besace et ses deux revolvers sur un monceau de gravats. Se défit de son manteau, qu'il étala comme une couverture sur le carrelage écaillé, puis invita Hora à s'asseoir. Les chiens restèrent couchés à l'extérieur, les pattes antérieures écartées, le museau posé dans la neige. « Ta baguette n'a rien capté ?» demanda Moram en sortant de sa besace le thermos de kawa et les provisions. Elle ne répondit pas, les yeux rivés au sol, les mâchoires tremblantes. Des flocons poussés par le vent mugissant traversaient de temps à autre la pénombre comme des éclats de songe. Même pas un signe. « J'ai pas, moi, une petite vibration, par exemple ?» insista le chauffeur. « Je ne suis pas sûr d'avoir le don, » murmura-t-elle. « Myriel s'est empoisonnée à cause de moi. »« Non, pas à cause de toi. Elle ne voulait plus vivre. Elle a trouvé ce prétexte pour mourir. Tu lui as donné l'occasion de partir en beauté. » Elle leva sur lui un regard étonné.
« Tu ne parles pas comme un chauffeur. »«
Pourquoi ? Les chauffeurs ne sont bons qu'à dire des bêtises. »
Les joues pleines de Hora rosirent légèrement, recouvrèrent en partie leur couleur d'origine.
« C'est pas ce que je voulais dire. »
« Rien de bien nouveau là-dedans, » fit Moram d'un ton pincé. De tout temps, les sourcils ont méprisé les chauffeurs.
Il retira le bouchon du thermos et s'en servant comme d'une tasse, le remplit de kawa. Il le tendit à Hora, qui hésita quelques secondes avant de l'accepter. L'amertume et la chaleur du breuvage lui plissèrent les yeux et lui retroussèrent le nez.
« Je ne voulais pas t'offenser, Moram. Je te trouve seulement différent des autres chauffeurs. »«
C'est vrai que j'ai jamais aimé plonger les mains dans la mécanique, » concéda-t-il. « Mais je leur ressemble sur bien d'autres points. Enfin, je leur ressemblais. » avant de devenir l'équipier de Jack et de me retrouver en compagnie du donneur. Avant, surtout, de te rencontrer.
De rose, les joues de la jeune femme virèrent au rouge. Ils mangèrent en silence les morceaux de viande fumée, les fruits secs et les galettes de céréales que leur avaient fournis les intendants.
« Moi, je sais que t'as le don, »
reprit Moram après avoir bu une gorgée de kawa.
« J'aimerais partager tes certitudes. »«
Il faut seulement que t'aies confiance en toi. Comme j'ai confiance en toi. Tu trouveras de l'eau avant ce soir, je le sens. »
Elle le fixa soudain avec une telle intensité que ce fut à son tour de rougir. Elle dégrafa sa cape de laine et d'un mouvement des épaules la fit glisser sur le carrelage, dévoilant sa robe écrue de sourcière dont les drapés laissaient ses bras et une partie de son ventre nu.
Médusé, il la vit retirer ses bottines fourrées, se relever, s'avancer et s'agenouiller devant lui. Ensuite, il se rendit compte, comme dans un rêve, qu'elle lui arrachait son bonnet, qu'elle lui posait les mains sur le cou et qu'elle écrasait ses lèvres sur les siennes. Son baiser intrépide, maladroit, la saveur de sa bouche, la sensualité qu'elle dégageait attisèrent dans les veines de Moram le feu allumé par le kawa. Ils se renversèrent sur son manteau, enchevêtrés,
emmêlés dans les plis de leurs vêtements. Les drapés se dénouèrent et libérèrent les jeunes seins de Hora. Les mains de Moram, fous de désir, s'en emparèrent avec frénésie, puis commencèrent à se glisser sous le bas de sa robe. Il fut transpercé par un éclair de lucidité, comme une sonnerie de retraite déchirant le tumulte d'un combat. « Après, gémit-il. Quand tu auras trouvé de l'eau ?» Il s'étonna de s'entendre prononcer ces paroles. Lui qui n'avait jamais su résister à un corps de femme. Elle se redressa, les lèvres luisantes, couleur cerise sauvage, les yeux brillants, les cheveux en bataille.
« Tu n'as pas de désir pour moi ?»
Il couvrit d'un regard chaviré sa poitrine offerte.
« Si tu as autant de désir de trouver de l'eau que j'ai du désir pour toi, alors les aquariotes auront de quoi boire pendant plus de 1000 ans. »
Elle eut un sourire qui le bouleversa, l'embrassa avec fougue et entreprit de rajuster les drapés de sa robe. Moram demeura allongé sur le sol, abasourdi, vibrant, de la tête aux pieds. Se traitant de tous les noms d'oiseaux de son répertoire, et Mère Nature seule savait combien son répertoire était riche.
« Tu n'es vraiment pas un chauffeur comme les autres, »
fredonna-t-elle. « T'en as connu beaucoup ?»«
Je ne me suis encore donné à personne. » »«
Mais beaucoup, dont Tchak,
ne demandaient pas mieux que de... me connaître. »
Moram se rendit compte qu'il s'était éloigné du périmètre de la ville de l'ancien temps. Le ruban légèrement assombri de la Loire s'égarait en ample méandre entre les collines aux courbes douces qui avaient supplanté les reliefs irréguliers des ruines. Il lança un coup d'œil impatient à Hora. La tête enfouie dans le col de sa cape, elle marchait à pas lents dans la neige fraîche. Impatient parce que la rabde ne donnait rien, certes, mais surtout parce que son désir, fouetté par le kawa, ne s'était pas refroidi durant les 2 ou 3 heures qui avaient suivi leur première étreinte. Il ne regrettait pas sa décision. Elle avait surgi d'une zone très profonde de lui-même. Et même s'il ne pouvait pas l'expliquer, il savait, oui, il savait qu'elle était juste, nécessaire à l'épanouissement de Hora. La découverte des sens l'aurait accaparé, empêché de concentrer son énergie sur la rabde. Les chiens, infatigables, gambadaient sur les versants des collines. Les nuages s'effilochaient et révélaient la trame bleu-gris d'un ciel où s'étiraient quelques traînées rougeâtres annonciatrices du crépuscule.
« Faudrait retourner sur nos pas maintenant, » dit Moram. « On s'est déjà trop éloigné du bunker. »«
Pas maintenant, »
répondit Hora sans se retourner.
« Ma baguette, elle se tend. »
Moram faillit répliquer que lui-même était tendu depuis un bon moment, mais il y renonça. Il ne tenait pas à ternir sa réputation toute neuve de chauffeur différent.
« T'es sûr ?»«
Il y a de l'eau ici. »«
Bah, de l'eau, il suffit de casser la glace du fleuve pour en apercevoir. »«
Les baguettes ne détectent que les nappes phréatiques, les cuves ou les sources souterraines, pas les fleuves, ni les rivières, ni les ruisseaux, ni les flaques. »
Personne n'a jamais essayé de boire de l'eau de pluie. Elle est peut-être bonne après tout.
Elle est sans doute moins toxique que l'eau contaminée par les anguilles, mais elle provient de nuages qui ont traversé les zones radioactives ou polluées par les émanations chimiques. Elaïne l'Ancienne m'a dit que certains peuples ont essayé d'en boire, soit parce que les aquariotes n'avaient pas réussi à les livrer à temps, soit parce qu'ils n'approuvaient pas l'éthique nomade. Ils ont disparu de la surface de la Terre en moins de 10 ans. Même en la recueillant avant qu'elle ne touche le sol, elle est porteuse de maladies, de mort. Et maintenant, Moram, tais-toi. Tu es dans une rabde. Les sourciers ont besoin de silence, de concentration.
Elle lui adressa un clin d'œil par-dessus son épaule pour dissiper le flottement engendré par la rudesse de son ton. Ils abandonnèrent la rive de la Loire pour s'enfoncer dans une forêt d'arbres décharnés. Les chiens émettaient à présent des grognements sourds et ne s'éloignaient plus des 2 humains dont ils avaient la garde. Leur comportement poussa Moram à retirer un de ses gants et à se munir d'un revolver. Penché vers l'avant, comme entraîné par sa baguette, Aura se dirigea vers une éminence qui, de loin, évoquait un tertre rocheux. L'attaque fut si soudaine que Moram n'eut pas le temps de tirer le moindre coup de feu. Il crut d'abord avoir affaire à de drôles d'animaux à deux pattes, puis se rendit compte que c'était des hommes. Une vingtaine. Mâles et femelles, vêtus de peaux cousues grossièrement, poussant des hurlements stridents, brandissant des massues, des pierres, des branches taillées en pointe et durcies au feu. Ils avaient jailli des rochers disséminés entre les arbres et fondu sur les chiens et les deux aquariotes dans l'intention manifeste de les massacrer, et sans doute de manger leur chair. Le chauffeur avait déjà rencontré ce genre de tribus perdues dans les plaines de l'Europe de l'Est ou dans le massif montagneux de la Suisse. Les nomades les désignaient sous le nom de sauvages, mais leur donnaient plus généralement le sobriquet de Cro-Magnons. Adeptes du cannibalisme, ils ne survivaient qu'en buvant le sang de leurs victimes, animales ou humaines. Ils ne constituaient pas un réel danger dans la mesure où, peu nombreux, ils ne s'attaquaient jamais au convoi, et qu'il suffisait de quelques coups de feu pour les égayer. Mais ils n'hésitaient pas à s'en prendre aux promeneurs isolés. Moram passa le bras autour de la poitrine de Hora et la maintint serrée contre lui. Les chiens avaient réagi avec une promptitude remarquable. Ils avaient happé les agresseurs les plus proches par les jambes et les avaient renversés d'une simple torsion du cou. Puis, exploitant l'indécision des autres, ils s'étaient répandus dans leurs rangs, agiles, vifs, esquivant sans difficulté les pierres et les pieux. Ils formaient à présent un escadron de griffes et de crocs qui frappaient sous tous les angles avec une précision implacable. La gorge brisée, les vertèbres broyées, le ventre ouvert, les Cro-Magnons s'effondraient l'un après l'autre, comme des masses entre les troncs. Voyant que les choses tournaient mal, quelques-uns tentèrent de s'enfuir, mais les chiens, impitoyables, les rattrapèrent en quelques bonds, les renversèrent, leur sectionnèrent la carotide d'un coup de mâchoire, et entamèrent la curée en commençant par les viscères.
« Mon Dieu !» gémit Hora, livide. Tremblant de tous ses membres, elle peinait à retenir sa baguette toujours tendue en direction du tertre, et sans l'appui de Moram, elle se serait probablement affaissée dans la neige.
Le silence de la forêt s'emplit de clappements de langues et de craquements d'os.
« L'eau !»
Hora se débarrassa de sa cape et glissa sa baguette dans la poche ventrale de sa robe. Le rayon de la lampe de poche de Moram essayait de cerner les limites de la cuve, mais il s'évanouit avant d'atteindre le bord opposé. La sourcière et le chauffeur s'étaient faufilés dans ce qui ressemblait à une ouverture en bas du tertre et avaient longé un couloir étayé par des poutrelles métalliques au bout duquel ils avaient localisé la trappe du conduit, dissimulée derrière un paravent rocheux. À la lueur de la lampe, Moram avait désagrégé le couvercle en ciment armé à l'aide de la crosse de son revolver. Puis, épuisé, il avait achevé de le dégager en tirant une dizaine de balles sur les scellés métalliques. Ils avaient dévalé le conduit à la façon d'un toboggan et avaient débouché dans la salle entièrement capitonnée de béton où reposait la cuve en métal inoxydable.
À mon avis, elle se terre une vingtaine de mètres en dessous du niveau du sol, chuchota Moram. Les tuyaux sont suffisamment longs pour...
Il se tut, prenant conscience que Hora se concentrait pour affronter l'épreuve de vérité. Il s'assit sur une saillie et observa la jeune femme, fascinée, amoureux, envahie également d'un sentiment d'inquiétude. Personne ne viendrait les déranger. Les chiens gardaient l'entrée du tertre. Mais si Hora commettait une erreur de jugement, elle lui serait enlevée avant même de lui avoir été donnée. La température était agréable, environ une quinzaine de degrés au-dessus de zéro. Hora inspecta soigneusement ses mains et ses poignets avant de retrousser sa robe et de s'accroupir sur le bord de la cuve. Elle fixa la surface frissonnante de l'eau sans bouger. Et Moram eut l'impression que, comme Solman, elle tentait d'entrer en contact avec l'élément, de voir au-delà des apparences. Elle tendit le bras, puisa de l'eau dans le creux de sa paume, et d'un geste ferme en versa quelques gouttes dans sa bouche. Le souffle du chauffeur se suspendit. Allons annoncer à notre peuple que l'eau nous est donnée, déclara Hora au bout de quelques secondes d'un silence irrespirable. Elle se releva, se retourna, déroula les drapés de sa robe avec une lenteur calculée, retira ses bottines, puis le pagne qui lui servait de sous-vêtement, et, nue, altière, s'avança vers Moram. « J'ai trouvé l'eau !» dit-elle avec un sourire triomphal. « Elle a un goût prononcé de chlore, mais elle est saine. À toi maintenant de tenir ta promesse !» Il avait certainement connu des femmes mieux proportionnées, plus provocantes, mais aucune ne l'avait subjugué comme Hora. Aucune ne l'avait ainsi réconcilié avec lui-même. La preuve, il n'éprouvait plus le besoin obsessionnel de se raser depuis qu'il l'avait empêché de se jeter dans l'eau empoisonnée du labyrinthe souterrain. La nuit était tombée quand, guidés par les chiens, ils reprirent le chemin du bunker. Demain, Moram demanderait aux chauffeurs de transférer leurs reliquats de gaz dans le réservoir d'un camion et irait remplir une citerne. Hors de question d'attendre un jour de plus. Hora, à sa première rabde, avait trouvé une quantité phénoménale d'eau, et il fallait que le peuple aquariote le sache, lui pardonne la mort de Myriel, lui rende l'hommage qu'elle méritait. Allongés sur la cape et le manteau étalé, ils avaient envisagé un temps de s'aimer toute la nuit dans l'obscurité paisible de la cuve. Puis ils s'étaient résignés à rentrer au bunker. Ils ne souhaitaient ni l'un ni l'autre que leur absence prolongée ne déclenche l'alerte dans le campement. La tiédeur insolite de l'air intrigua le chauffeur. Il soufflait comme un vent de douceur, comme une brise printanière dans les ruines de la ville de l'ancien temps. Curieux. On dirait que l'hiver touche à sa fin, murmura-t-il. Il vient pourtant tout juste de commencer. Hora, qui marchait rêveusement à ses côtés, ne répondit pas. Seule une pensée pour Myriel l'empêchait de savourer pleinement sa joie d'avoir été consacrée le même jour, sorcière et femme.